Je voudrais que tous les sièges devant, on commence d'habitude par devant, et pour que tout soit rempli devant, s'il vous plaît. Il y a des sièges qui sont ouverts. Qu'on ne laisse pas de place vide devant. Ça ne se fait pas. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons et nous savons que ta présence sensible se manifestera au milieu de nous pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Et par ton esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir, à ouvrir vos cantiques au numéro 3, mais à écouter d'abord quelques versets du psaume 106e. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus et que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Et avant de continuer, nous allons chanter le cantique numéro 3. Et vous vous levez pour chanter ce cantique. Nous continuons notre lecture. Verset 6 du psaume 106. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent les paroles du Seigneur. Ils chantèrent ses louanges. Nous ouvrons nos cantiques au numéro 16. Et nous chantons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique que vous connaissez bien. les trois premières strophes avant de continuer notre lecture. Nous nous levons. Nous continuons à partir du verset 13, la lecture de ce psaume 106. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe. Et la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Nous continuons le chant de notre cantique 16. Les strophes 4 et 5. Et nous continuons notre lecture à partir du verset 24. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur temps. Ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, ils mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinée se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se soulièrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux, leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Et nous chantons maintenant au cantique 38e avant de lire plus loin. Debout, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert de ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Chantons, c'est ces trois strophes. Torrent d'amour et de grâce, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise amen. Louez l'Éternel. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Cantique 25e. De toi vient la délivrance. Tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Ô heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement, tu le conduis. Chantons les quatre premières strophes de ce cantique 25, debout pour la louange. D'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Dieu notre Père, ouvre nos cœurs afin que nous puissions entendre maintenant le message que tu veux nous apporter et que nous puissions entrer dans la louange et dans l'adoration pour ton merveilleux amour et pour tes voies insondables. Mais parfait. En Jésus-Christ. Amen. Le message de ce matin en ce dimanche du 9 août 1981, se trouve donc à la fin du chapitre 11 de l'Épître aux Romains, après que l'apôtre Paul eut développé le mystère d'Israël, de cet endurcissement dont Dieu se sert pour apporter le salut aux nations païennes. Tout en nous annonçant que l'endurcissement d'Israël n'est pas pour toujours, et qu'il y aura aussi une heure pour ce peuple, pour être réveillé à salut. Alors que nous, les chrétiens, nous sommes mis en garde de ne pas tomber à notre tour dans les mêmes fautes que le peuple témoin du Seigneur de sa bonté et de sa sévérité, nous qui avons connu l'Évangile et qui ne le pratiquons plus, ou si peu, nous sommes mis en garde, car nous aussi nous pourrions être mis de côté. Et l'apôtre s'écrie, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et c'est là que nous l'entendons exprimer ces paroles ineffables. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mes bien-aimés, quand vous lisez la fin du chapitre 8 des Romains, vous voyez que l'apôtre Paul, considérant l'amour de Dieu pour nous, cet amour manifesté dans le don de son Fils, cet amour exprimé par ce Fils qui se livre lui-même pour nos offenses, lui qui aurait pu nous condamner, c'est lui qui devient la victime propitiatoire pour nos péchés. Lui qui n'a pas péché, il se charge de nos péchés. Quand Paul passe en revue cette succession d'actes d'amour, un cantique jaillit de son cœur. C'est un chant de victoire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous condamnera? Il n'y a plus de condamnation. Et plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais maintenant, au chapitre 11e, devant le mystère révélé, que cet endurcissement d'Israël, le peuple du Seigneur, de cette grâce qui est accordée aux nations, et aussi devant cette apostasie qui saisit les nations dites chrétiennes, l'apôtre en conclut que Dieu vraiment a voulu renfermer tous les hommes dans la même désobéissance pour que nul ne puisse se glorifier vis-à-vis de l'autre. Nous sommes tous coupables. Et pour que nous soyons sauvés, Dieu a usé de la même miséricorde. Alors, il n'y a plus d'esprit en Paul. Il se perd dans une louange qui n'est plus la reconnaissance pour ce que Dieu a fait, mais qui devient une adoration pour ce que Dieu est, pour ce qu'il est dans sa sagesse, pour ce qu'il est dans sa science, pour ce qu'il est dans sa miséricorde, pour ce qu'il est dans sa vérité, pour ce qu'il est dans son amour, pour ce qu'il est dans sa toute-puissance. Ô profondeur, une autre version dit, ô abîme, abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Devant ces perfections divines, nous ne pouvons rien expliquer. Nous ne pouvons plus comprendre. Nous ne pouvons qu'adorer. Et nous sommes dans l'état de Job, qui n'a plus seulement entendu le Seigneur, mais qui l'a vu, et qui rentre en lui-même, dit, « J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent, et il entre dans le silence. » Il écoute l'instruction du Seigneur. Il n'essaye plus de comprendre, il adore. Devant les voies incompréhensibles de Dieu, il ne raisonne plus, il ne discute plus. Maintenant qu'il connaît Dieu dans une intimité plus profonde, plus parfaite, il n'y a plus en lui cette idée qu'il pourrait se trouver de l'injustice dans le Seigneur ou de l'impuissance. Il est rentré en lui-même, il s'est jugé lui-même, il a dit, cet homme si pieux, j'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ces voix, dit le prophète, ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix, et ces pensées au-dessus de nos pensées. Alors, il n'y a plus place que pour l'adoration. On n'essaye pas d'expliquer qui a conseillé le Seigneur. Relisez les thèmes du prophète Ésaïe et vous verrez que Dieu n'avait pas besoin d'être conseillé. puisqu'il était le Conseil suprême. Puisque le nom du Seigneur est celui-ci, conseiller, Dieu sage, prince de paix. Qui lui a donné le premier? Dieu n'est débiteur de personne. C'est nous qui sommes toujours débiteurs. Ne devons rien à personne, sinon de nous aimer les uns les autres. Que ce soit là notre seule dette, et que nous comprenions qu'à l'égard de Dieu, nous n'avons qu'une dette, qui est une dette d'amour. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est de lui, par lui, pour lui. Plus question de nous. Dans l'adoration, lui et encore lui. Non plus nous et toujours nous. On ne s'élève pas bien haut dans un culte si l'on reste toujours à parler de ce que Dieu a fait pour nous ou de ce que nous avons expérimenté simplement avec Dieu. Si nous l'avons vu, nous devenons des adorateurs. Nous ne pensons plus à nous. Dans ce grand silence de l'adoration, nous nous perdons. Nous nous oublions nous-mêmes. Et le Seigneur, par son esprit, met sur nos lèvres des paroles qui nous dépassent et qui exaltent sa beauté, sa bonté, toutes ses perfections qui ont resplendi sur la face du Christ. De lui, les choses ont reçu l'être. Par lui, toutes les choses subsistent. Pour lui, c'est vers lui qu'elles tendent, comme vers les fins dernières. Alors, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, chantons encore le dernier verset, la dernière strophe du cantique 25. Bientôt, glorieuse attente, tu combleras tous nos voeux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Bientôt, le Seigneur reviendra. De cela, nous sommes sûrs. Avant de partir, il nous l'a promis. Si je m'en vais, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Nous sommes sûrs de sa venue, et en attendant son retour, il nous a exprimé un désir auquel nous pouvons répondre. Chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, c'est à un désir personnel du Seigneur que nous répondons. Celui qui nous a tant aimés au point de nous donner sa vie, a pu dire, en instituant cette suprême action de grâce, cette Eucharistie que nous appelons communément la Sainte Cène, le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous ne pensons plus maintenant qu'au Seigneur, qui a, comme le dit le psalmiste, établi, pour nous qui n'avions pas vu le Seigneur, un mémorial de ses merveilles, afin que nous soyons assurés de son passage ici-bas. Mais bien-aimés, si votre cœur a connu l'amour du Seigneur, et si ce cœur qu'il vous réclamait, vous le lui avez donné, ou si ce matin même, le Saint-Esprit vous pousse, non dans une émotion charnelle, mais dans la conviction qu'il donne à tout notre être, que c'est à lui que ce cœur doit appartenir à jamais, vous pouvez répondre à son désir en vous approchant de Satan. Il ne repoussera aucune âme qui vient à lui, témoignant qu'elle s'abandonne. Tout ce que Dieu attend ensuite de vous, il vous le montrera. Mais à son invitation. Encore une fois, nous le répétons, il n'y a pas de préalable. C'est une fois qu'on est entré dans cette communion avec Jésus, qu'on désire témoigner que c'est si vrai qu'avec lui, eh bien, nous confessons que nous sommes entrés dans cette mort qui est signifiée par le baptême et que nous vivons désormais d'une vie de résurrection pour témoigner dans la puissance du Saint-Esprit que nous avons un Sauveur et que nous avons un Seigneur. La table du Seigneur est la plus grande réunion d'évangélisation que nous pouvons connaître, car il s'y tient lui-même. Et sur cette table, nous savons que se trouve ce que lui-même y a mis un jour, ce pain de la Pâque, ce pain de ce repas qui célébrait la délivrance de ce pays d'Égypte. Quand on nous demande qui peut communier, qui sont ceux qui ont mangé l'agneau rôti, qui sont ceux qui étaient debout autour de la table, les reins saints, les sandales aux pieds, le bâton à la main, tous ceux qui allaient sortir dans la nuit, et dont beaucoup, finalement, n'arriveraient pas au pays promis parce qu'ils avaient méprisé ce pays des délices. Frères et sœurs, ne méprisons pas l'invitation du Seigneur. Nous tous, nous sommes maintenant couverts par le sang de l'agneau. Il n'y a pas de colère pour ceux qui s'approchent avec un cœur brisé et humilié. Ayez affaire individuellement avec le Seigneur. Ce n'est pas avec une autorité ecclésiastique quelconque que vous avez affaire pour vous approcher de sa table. le Seigneur est là. Et c'est lui qui exerce sa discipline. Écoutons encore ce récit que l'apôtre Paul nous fait et qui est si complet, plus complet encore que dans l'Évangile, que nous le relisons dans 1 Corinthiens 11. Verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Un de nos frères voudra-t-il venir pour rendre grâce pour le pain que le Seigneur nous donne, mémorial de son corps sacrifié pour nous.
Pour le Christ, le pain de vie qui a restauré notre âme. Aide-nous, Seigneur, à le reconnaître dans ses instincts, être conforme à sa parole entièrement, comme un pain entier, en son nom précieux.
Amen. Ce pain que nous rompons est notre communion au corps de Christ, rompu pour nous. Ceci est mon corps, dit Jésus, qui a été donné pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Que nous puissions dans ce moment être si intensément en communion avec le Seigneur que par-delà le pain et le vin, nous puissions réaliser que nous sommes réellement membres du corps de Christ, que nous ne sommes plus des individus isolés, mais que nous formons une seule et même famille, en communion avec tous ceux que le Seigneur aime et qu'il reconnaît pour les siens, indépendamment de la dénomination à laquelle ils peuvent encore se rattacher. Nous ne sommes pas en communion avec des associations cultuelles quelconques, nous sommes en communion avec le Seigneur qui nous met en communion avec tous ceux avec lesquels il se trouve en communion. Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et bien que ceux qui lui appartiennent puissent, après qu'un autre de nos frères sera venu pour rendre grâce pour la coupe, que ceux qui lui appartiennent puissent s'approcher dans le silence, comme nous vous le montrerons tout à l'heure, et communier personnellement en recevant du Seigneur lui-même et non pas d'un homme le pain et le vin. Qui voudra rendre grâce pour la coupe?
Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour les sacrifices suprêmes que ton Fils a fait à la croix en versant tout son sang pour la rémission de nos péchés. Nous te rendons grâce pour tout cet amour qu'il a eu pour chacun de nous, de ce que nous étions tous compris dans le sacrifice qu'il a accompli. Et nous te rendons grâce aussi par la puissance de ton esprit, tu nous as fait saisir ce mystère qui fait de nous tes enfants pour l'éternité. Amen.
Amen. Jésus, prenant cette coupe, a dit, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Qui sont ces plusieurs, sinon ceux qui ont cru en lui, ou qui croient en lui ce matin. Cette coupe de bénédiction que nous élevons est notre communion au précieux sang du Christ, versé pour nous. Amen. Seul, avec le Seigneur, à qui nous aurons à rendre compte, nous allons nous approcher de Satan. Ceux qui voudraient s'abstenir restent dans la prière sur leur siège. Ceux qui s'approchent ne regardent pas ceux qui restent sur leur siège. Ils regardent pour eux-mêmes le Seigneur. Et ils prient. Vous viendrez vous-même, les uns venant par là, prenant le pain et la coupe et s'en retournant à leur siège par là. Les autres venant par là, prenant le pain et la coupe et s'en retournant par derrière. Pour que tout soit fait avec ordre, tandis que toute l'assemblée reste dans la prière. Venez, car déjà tout est prêt. Vous n'êtes pas digne, lui est digne. Il a fait une œuvre qui nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Aucun des bien-aimés du Seigneur n'a été frustré. Nous restons dans le silence. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau, quand Jésus entra dans mon cœur. Par la grâce de Dieu, pour moi, il y a 50 années que cela eut lieu. Et la bénédiction de ma vie a été de pouvoir répondre ensuite à ce désir du cœur de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. J'avais 14 ans quand pour la première fois j'ai pris part à ce saint repas. et je puis rendre simplement ce témoignage que de communier régulièrement, souvent, a été pour moi la puissance qui m'a gardé de bien des fautes dans ma jeunesse. Car je voulais pouvoir, dimanche après dimanche, répondre aux désirs du cœur du Seigneur. Et je savais que si dans la semaine, je m'étais attablé là où règne Satan, si j'avais bu à la coupe des démons pendant les 6 jours ouvrables, comment pourrais-je être en communion avec le Seigneur le dimanche? Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Je ne peux pas satisfaire mes convoitises et en même temps prétendre être agréable au Seigneur en venant communier, tant qu'il y a une puissance qui nous garde du péché, parce qu'on aime le Seigneur, et parce qu'aussi on ne veut pas apporter une souillure à sa table, car si nous le faisions, nous souillerions nos frères, nous souillerons aussi la communauté. Et c'est pourquoi, avant chaque repas du Seigneur, nous nous laissons laver les pieds par le Seigneur Jésus, spirituellement parlant, nous le laissons nous purifier. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et alors c'est la transparence, et nous sommes maintenus dans cette communion qui fait notre joie et notre bonheur, communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, qui se manifeste dans la communion que nous avons aussi les uns avec les autres. Chantons maintenant Merveilleux changement, cantique 2. Je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau, quand Jésus entra dans mon cœur.
Je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur. Inéffable bonheur quand Jésus entra dans mon cœur. Autrefois égaré, je suivais mon chemin quand Jésus entra dans mon cœur. Il lava ma souillure et me prit par la main quand Jésus entra dans mon cœur. Ce fut joie et terreur, ineffable bonheur. quand Jésus entra dans mon cœur, je jouis du fait d'un espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra.
Ô Dieu notre Père, tous ensemble, nous t'apportons encore une fois les hommages de nos cœurs. Tu as entendu toute cette louange silencieuse. Nous savons qu'elle est montée jusqu'à toi, car le silence est louange. Et nous croyons aussi que tu as entendu tous ces soupirs inexprimables, que le Saint-Esprit sonde et te présente pour nous. Et nous croyons que nous recevons maintenant ta bénédiction selon tous les besoins qui se trouvent dans nos cœurs. Nous te prions spécialement pour ceux qui vont nous quitter, qui vont retourner dans leurs occupations. Nous savons que tu les accompagneras, que tu les béniras et que tu mettras en eux les certitudes de cette vie éternelle et des possibilités qu'ils ont en toi de recourir à tous ces moyens spirituels que tu mets à notre disposition pour que nous puissions vivre d'une vie spirituelle dans ce monde charnel et que nous puissions communiquer à ceux qui nous entourent par des moyens spirituels les choses spirituelles. Soutiens béni tous tes serviteurs qui travaillent dans ce monde avec lesquels nous nous trouvons en communion. Veuille bénir tous les malades, tous les affligés de la terre. Apporter ta guérison aux cœurs qui s'attendent à toi. Tes consolations à ceux qui passent par le deuil. Ton espoir libérateur à ceux qui sont prisonniers. Qu'ils sachent aussi que, au dehors, des hommes autrefois captifs de leurs péchés, prient aussi pour eux, pour qu'à leur tour, ils soient libérés de leurs chaînes. Et que dans ta bonté, tu nous donnes d'être de ceux qui continuent la course en marchant les yeux fixés sur Jésus, celui qui nous a frayé la route, celui qui marche devant nous, qui est notre arrière-garde, dont l'ombre de la main nous couvre et qui nous dit: au-dessous de vous sont les bras éternels. Et recevons maintenant les certitudes de sa parole qui nous dit: à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et comme il est dit que dans la chambre haute à Jérusalem, où fut institué ce mémorial des souffrances de notre Seigneur. Après avoir chanté une hymne, ils se levèrent et sortirent dans la nuit. Eh bien, mes bien-aimés, nous sommes debout et nous allons chanter nos certitudes en confessant que nous ne comprenons pas. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, c'est le numéro 37. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Et maintenant nous pouvons nous en aller dans la paix du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux de penser que nous aurons célébré un culte sans l'avoir voulu à l'entrée du camp? Vos pas se sont arrêtés à l'entrée du camp et ce lieu est devenu un lieu saint. Amen.